La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Savoir voir et savoir représenter, c'est là probablement la spécialité minimum des artistes. Mais quand l'art occidental met en scène les actions humaines qui se déploient dans le paysage, quelle place a donc la nature dans ses œuvres? Est-elle un arrière-plan, un décor secondaire, une suggestion distante ou encore un répertoire commode astreint à seulement connoter les émotions ou les vertus? Quelle place les artistes ont-ils donné aux plantes, aux animaux, bref, aux autres habitants de notre monde commun? Alors que notre sensibilité change avec la sensation nouvelle de notre précarité et la conscience que le monde naturel ne peut être seulement une ressource à laquelle nous pourrions infiniment puiser jusqu'à le détruire, on se penche enfin, en Occident, vers l'émerveillement que l'attention portée à nos cohabitants nous procure. Alors tout change. Notre comportement, la conception du paysage, notre relation aux autres vivants. Un livre intitulé « Apprendre à voir, le point de vue du vivant » paraît dans quelques heures et il explore le sens de ce tissage irrégulier que les artistes influencés par les savants ont tramé dans leurs œuvres. Nous y rencontrons des peintres et des femmes naturalistes, surtout du 19e siècle anglo-saxon, qui ont choisi d'apprendre à voir plus finement la vie et les interactions entre les acteurs du paysage et grâce auxquels nos plaisirs d'observateurs se sont étendus. On ressort une manière inédite et heureuse d'observer les œuvres comme du point de vue des vivants qui la composent et un plaisir renouvelé à observer et comprendre ces vies intenses qui frémissent autour de nous. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Zong-Mingual, chercheuse, historienne de l'art, professeure à Sciences Po. Estelle Zong, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Jean, je vais très bien, merci, je suis ravie d'être ici.
Moi aussi, et vous savez que je viens de recevoir votre livre qui sera en librairie dans une dizaine de jours, et je l'ai ouvert par hasard, comme parfois je le fais, au milieu, et je suis tombé sur une double page qui m'a intrigué. D'un côté, il y avait une gravure qui représente une dame qui s'appelle Marie Treat. Elle est au milieu d'une enceinte végétale. Elle a un chapeau sur la tête, elle a l'air d'être assise calmement et d'observer. Je vois qu'autour de la haie qu'elle a peut-être bâtie elle-même, il y a des ruches. Et en face, je vois un tableau de Claude Monet qui représente les femmes au jardin, où il y a des femmes sublimes en grande robe, l'une qui court dans une allée, deux autres qui cueillent des bouquets. Et je me demande ce qui peut opposer dans votre esprit ces deux images.
Alors, ce qui pour moi est très distinct dans ces deux images, c'est la qualité d'attention portée au vivant dans un cas et dans l'autre. Dans le cas de Mary Treat, donc, qui est une naturaliste américaine du 19e siècle, on la voit assise, seule, dans un jardin qui a été vraiment construit comme un cercle de l'attention qui se referme sur elle, où il n'y a, comment dirais-je, rien d'autre à faire, si ce n'est à observer ce qu'il se passe. Et ça suppose de postuler qu'il se passe effectivement quelque chose qui mérite d'être regardé. Et dans le tableau de Claude Monet, nous avons ces femmes qui, déjà, sont dans des postures très différentes. Elles sont plutôt dans une posture de déambulation, de flânerie. Comme vous le dites, elles sont en train de cueillir des bouquets. Et on sent que le jardin ici n'est pas tant un lieu de l'attention vers les autres vivants que nous, qu'un lieu de socialité entre amis, un moment de détente, Et pour moi, c'est ça qui fait, comment dirais-je, cette opposition très nette entre ces attitudes de femmes dans un même milieu qu'est le jardin.
Mais vous voulez dire qu'il y aurait un moment de la sensibilité où nous étions dans la nature, mais où nous ne voyions rien ? C'est ça que vous voulez laisser entendre ? C'est que nous voyions simplement un décor, que c'était simplement l'univers charmant dans lequel nous promenions nos corps sans qu'il y ait une attention à ce qu'il compose ?
Exactement. C'est-à-dire que dans ce tableau de Claude Monet, bien sûr pas du tout dans toute l'œuvre de Claude Monet, ce serait entièrement faux de dire ça, mais dans cette œuvre, le jardin est, comment dirais-je, l'arrière-plan d'une action humaine, à savoir une promenade entre amis. Le jardin n'est pas représenté comme étant cette myriade de formes de vie singulières, comme étant, comment dirais-je, habitée par des formes de vie autres qu'humaines. Ce n'est pas du tout l'accent qui est mis dans ce tableau-là. Et c'est ça que j'essaye de mettre au premier plan dans ce livre, c'est de montrer comment apprendre à voir le monde vivant comme étant profondément habité, peuplé, par des formes de vie singulières et riches en histoire, en comportement. Et donc c'est un milieu, ce monde vivant qui est profondément acteur. Alors, et qui ne mérite pas d'être seulement vu comme un décor.
C'est ça. Et alors, curieusement, vous semblez identifier assez nettement le moment où ça se produit, évidemment. Vous mettez en avant le rôle des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez nous le dire. Pourquoi tout d'un coup les femmes prennent cette importance alors que je les pensais plus liées au monde domestique par les conventions sociales de l'époque. Et il y a une personne que vous évoquez qui s'appelle Frances Theodora Parsons. Et je vais vous lire ce que vous rapportez et qu'elle dit et qu'elle écrit elle-même. « Je comprends aujourd'hui à quel point je perdrais au change en cédant trop facilement au découragement, mais j'en avais déjà quelque peu conscience. Durant cette longue période de ma vie où les plantes étaient pour moi anonymes. Lorsque je me retrouvais parmi les fleurs, dont les visages m'étaient familiers, mais les noms inconnus, je sentais que je ne tirais pas le meilleur parti de la situation. Et quand je rencontrais des plantes que je ne connaissais ni de vue, ni de nom, j'étais alors bel et bien une étrangère parmi elles. » J'ai l'impression, Estelle Zong, quand on écoute ce petit texte de Frances Theodora Parsons, que nous serions passés au milieu d'un monde anonyme avec lequel nous ne pouvions pas construire de relations. Est-ce que c'est cela que vous avez ressenti ou que vous voulez faire passer comme sensation à cette période ?
Tout à fait. Alors, donc dans ce livre, j'explore une lignée de femmes naturalistes que je ne connaissais pas avant d'écrire ce livre et qui est très peu connue, qui est très peu parvenue jusqu'à nous, qui est une lignée qui était très importante au XIXe siècle. C'était des femmes qui écrivaient des ouvrages d'initiation à la pratique naturaliste et qui, à l'époque, étaient des best-sellers. Et ce qui m'a fascinée, pourquoi j'ai écrit sur ces femmes, c'est parce que, en feuilletant leur ouvrage, j'ai découvert une manière d'écrire qui me semblait être particulièrement riche et utile pour notre temps, parce qu'elles ont une manière d'écrire, comme vous le pouvez le voir dans cet extrait de Frances Theodora Parsons, de parler du monde vivant d'une manière qui nous relie à lui. C'est-à-dire qu'elle mobilise des connaissances, mais pas des connaissances qui nous séparent, mais qui nous relient. Et dans cet extrait de Theodora Parsons, ce qu'on voit, ce qui est très profond, c'est qu'elle dit qu'elle est une étrangère parmi les plantes si elle ne connaît pas leur nom. Alors qu'on aurait tendance à penser que c'est plutôt les plantes qui devraient être étrangères à elle. Et ce qu'elle dit, c'est que finalement, on ne peut pas pleinement appartenir au monde et au monde vivant, se sentir un membre à part entière de cette communauté si on ne connaît pas les noms, un peu comme quand on est invité à une fête et qu'on ne connaît pas les noms des convives et on se sent un peu exclu de ce monde-là. Et ces écrits de femmes naturalistes parviennent justement à nous faire rentrer dans cette communauté des vivants de manière très sensible en n'abandonnant jamais les savoirs.
Elle parle même du visage des plantes. L'expression « visage des plantes » m'a frappé. J'ai trouvé que c'était tout d'un coup un dialogue avec des personnes.
C'est vrai. Alors c'est quelque chose, si vous voulez, là c'est quand elle parle de visage, C'est pas du tout, comment dirais-je, une figure seulement poétique. C'est parce qu'il y a vraiment une analogie. Elle fait une analogie entre la relation qu'on peut tisser avec d'autres humains, une relation de reconnaissance, de familiarité qui passe par les visages, et le fait que cette même relation de reconnaissance et de familiarité peut se tisser avec des plantes. Elle essaye de comparer ces deux relations. Et si vous pratiquez un peu la botanique ou la cueillette, c'est vrai qu'il y a un phénomène dans l'identification qui se rapproche de la reconnaissance de visage, au sens où tout d'un coup il y a des traits de la plante qui vont faire saillance et qui font qu'elle va sortir de l'aplat végétal pour tout d'un coup devenir quelqu'un avec qui on peut entrer en relation.
Mais alors, ce qui est curieux, c'est que cette entrée en relation donne l'illusion qu'il faut tout d'un coup se mettre au niveau des choses que l'on regarde. J'ai l'impression que si on veut se mettre à regarder une touffe d'herbe ou bien un animal, il faut devenir soi-même un petit peu animal.
Tout à fait. C'est quelque chose qu'on voit très bien, notamment le fait de se mettre à hauteur d'eux. Et aussi plus, donc c'est un rapport spatial bien sûr d'observation, mais plus profondément se mettre à la hauteur d'eux dans le sens de se mettre à la place où, depuis la perspective du vivant qui nous intéresse. Si c'est quelque chose par exemple qu'on voit notamment chez Dürer avec cette œuvre très célèbre qui s'appelle La Grande Touffe d'Herbe.
Ah oui, vous l'avez reproduit dans votre livre d'ailleurs, elle est incroyable. On a l'impression qu'il s'est mis à plat ventre pour représenter ces herbes.
Exactement.
Et c'est une planche qui est grande, hein. elle fait 60 cm, donc c'est pas une œuvre, ça donne pas la sensation d'être une œuvre préparatoire à un tableau.
Pas du tout, et c'est d'ailleurs la grande interrogation sur cette œuvre, parce qu'on aurait tendance à vouloir la repousser, comme une sorte d'exercice pictural. Et en fait, le fait qu'il ait choisi ce point de vue de nous représenter cette touffe à hauteur, c'est un point de vue qui est très peu commun en peinture, et avec cette attention à chaque silhouette de plante, avec une organisation de cette touffe d'herbe qui nous laisse voir que c'est tout un monde qui se déploie et qui parvient du coup à lui restituer de l'importance, alors même que voilà, une touffe d'herbe, c'est typiquement ce qu'on ne regarde jamais ou qu'on considère comme parfaitement secondaire. Et Dürer nous force à l'attention cette touffe d'herbe et nous fait nous poser des questions, c'est-à-dire pourquoi Dürer a estimé que c'était un sujet digne d'être représenté, alors même que nous avons tendance, si nous ne pouvons pas interpréter la touffe d'herbe en termes symboliques, en termes de, comment dirais-je, de ce que ça nous évoque en termes d'émotions humaines, on a tendance à dire que ça ne vaut pas le coup d'être représenté. Et Dürer vient un peu ébranler ça.
Alors, vous avez raison, parce que je ne vois pas dans la touffe d'herbe de Dürer cette magnifique planche, mais qui où j'essaye de l'imaginer effectivement en dessinant à plat ventre ce sujet sans importance. Je ne vois pas de symbolique, parce que je sais bien que dans une annonciation, le lys signifie quelque chose. Je pense par exemple à un tableau que vous reproduisez dans votre livre et qui est bien connu. Hein. Je pense à l'Ophélia de Millet, de John Everett Millet. On est en 1850 à peu près, 51 peut-être. Et on voit le corps qui flotte d'Ophélie. Elle est dans ce ruisseau. On devine les mousses sous elle et autour d'elle. La peinture des fleurs est extrêmement précise. Et ça donne la sensation de raconter quelque chose d'exact en tout cas d'une certaine façon, vous allez nous le préciser, on voit des saules, des pâquerettes, une violette, un coquelicot, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une attention à la nature.
C'est sûr, il y a une très grande attention à la nature chez les pré-raphaélites en général, avec cette ambition d'avoir ce qu'ils appelaient dans la lignée des Emerson un œil transparent, mais ce qui est assez quand même intrigant dans ce tableau, c'est que moi je pense profondément que pour passer autant d'heures à représenter avec autant de minutie ces végétaux Millet avait un intérêt profond pour ces formes de vie, mais néanmoins, au moment d'interpréter ce tableau, ce qu'on observe, c'est que spontanément, on va interpréter les végétaux comme des symboles d'émotions humaines. Donc le saule, c'est l'abandon, l'ortie, c'est la douleur, la pâquerette, c'est l'innocence, la violette, c'est la fidélité, etc. Donc comme des vivants qui sont là pour raconter seulement l'histoire d'Ophélia, qui sont là en fait pour autre chose qu'eux-mêmes. C'est-à-dire ils sont présents à la surface du tableau, mais en vérité, leur singularité de forme de vie, leur histoire propre, ne serait pas le sujet du tableau, et ils ne seraient convoqués que comme, représentation d'émotions humaines. Et c'est ça qui m'a beaucoup interrogée quand j'ai écrit ce livre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette habitude de voir où, spontanément, on annule la présence des vivants en ne les prenant que comme symbole d'autre chose qu'eux-mêmes. Je me suis dit que c'était une manière étrange de voir et peut-être aussi de ne pas voir, parce que en rabattant tout de suite les vivants sur des significations humaines, on se prive de pouvoir voir autre chose de ce qu'ils sont. Et c'est ça que j'ai essayé de faire en restituant voilà des filiations artistiques et naturalistes qui nous ouvrent d'autres manières d'interpréter le vivant.
Alors, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une observation scrupuleuse de la part de Millet de la nature, mais que la nature n'y est pas présentée pour son mystère propre, mais simplement comme illustration des sentiments, c'est ce que vous venez de nous dire. Mais cette exploration des secrets de la nature, je pense à William Blake, par exemple, qui représente Newton. On voit bien dans cette œuvre qu'il va chercher un secret très profond de ce qui structure le monde. Est-ce que dans cette représentation, pourriez nous la décrire d'ailleurs, que fait William Blake de Newton, il y a quelque chose d'autre qui apparaîtrait?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc dans ce portrait de Newton par Blake, qui date voilà du début du 19e, c'est que il représente effectivement une manière d'explorer la nature, mais c'est la manière qu'aborde Blake. Donc, je vais vous décrire un peu l'image
oui, pour qu'on comprenne
de quoi il retourne. Donc, ce qu'on voit dans cette estampe, c'est un homme, donc censément Newton, nu. Assis sur un rocher extrêmement bigarré, recouvert d'algues, de lichens, de formes de vie végétales, très colorées. Et lui est assis sur ce rocher, mais il tourne le dos à ce rocher et il est penché au sol, en train de dessiner des figures géométriques sur un petit morceau de parchemin blanc. Et ce que représente ici Blake, c'est très important parce que c'est cette tension continuelle qui habite notre héritage entre science et art, entre une manière d'explorer la nature pardon, par l'art et d'explorer la nature par les sciences. Ce que montre ici Blake, c'est comment une certaine science, alors bien sûr héritière de Newton, c'est pour ça que c'est cette figure ici, qui est associé chez Blake à la montée du positivisme au XIXe siècle, est une approche du monde qui, pour lui, est réductrice. C'est-à-dire que ce monde infiniment chatoyant et multiple, qui est incarné par ce rocher auquel Newton tourne le dos, ne devient que des formes géométriques sur le papier, qu'on estime être, donc c'est-à-dire l'interprétation mathématique du monde, si vous voulez,
oui.
Qu'on estime, à partir du 19e siècle, être la seule exploration légitime pour dire la nature. Et c'est, pour les romantiques dont fait partie Blake, c'est d'une très grande violence, parce que c'est pour eux un mode de connaissance qui est profondément séparant, réducteur, mécaniste, et donc... l'art des romantiques et d'essayer de revenir à un rapport plus sensible mais aussi qui ne refusera pas les savoirs. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, parce qu'on pourrait dire sortir de cette opposition entre art et science, on pourrait être tenté de dire il faut avoir un rapport uniquement sensible, sensoriel et abandonner les savoirs qui sont fondamentalement ces parents qui nous mettent fondamentalement à distance du monde vivant. Mais ce que j'ai, la voie que j'ai choisi d'emprunter moi, c'est justement de suivre des artistes et des naturalistes qui unissent les deux avec cette profonde conviction que sans savoir, il y a une véritable difficulté à saisir l'altérité des autres formes de vie. Qu'on ne peut pas abandonner les savoirs si on veut, si on, comment dirais-je, on est conscient de la profonde altérité du monde vivant et que se débarrasser des savoirs revient d'une certaine manière à n'emmener que soi partout. Puisque si on, puisque voilà, si on ne connaît pas le monde vivant, finalement, ce qui nous reste, c'est, ce sont nos projections. C'est ce qu'on veut y voir, c'est ce qu'on y met nous, qui a bien sûr de la valeur et qui a créé des œuvres magnifiques. C'est pas du tout pour remettre en cause ce rapport-là, mais l'ambition de ce livre, c'est plutôt d'essayer d'ouvrir les rapports, de les multiplier et de ne pas être seulement dans un rapport de projection et d'écrasement de l'altérité à l'égard du monde vivant, mais justement dans un rapport de curiosité, d'enquête et d'attention à son égard.
Mais il y a aussi, je dois dire, avec cette démarche qui unirait une connaissance et un émerveillement, l'ouverture d'un autre type de bonheur possible pour le voyageur, le regardeur, le promeneur. Je pense par exemple à un tableau qui, pour moi, c'est un des tableaux dans le livre qui est le plus caractéristique d'une réussite entre art et science. Quand on le regarde, on n'est pas certain que ça soit pas d'abord une planche d'observation des plantes et puis finalement c'est un grand paysage. C'est un artiste que je ne connaissais pas d'ailleurs, un tableau qui est conservé à Boston de Martin Johnson Head et ça s'appelle Orchidées et oiseaux mouches. Et donc je vois ce grand tableau de 70 cm à peu près horizontal avec une perspective immense sur une vallée. Je ne sais pas si on est dans les Andes ou vous nous le direz. Et on voit la canopée des arbres qui s'étend au loin, une certaine humidité dans le ciel à travers des nuages, un grand arbre penché sur la partie droite et partant du tronc de cet arbre, une fleur extraordinaire, très belle, vous nous direz ce que c'est. Et à gauche, un petit oiseau qui est posé sur une branchette et qui d'ailleurs a des relations colorées entre le doré ou le mordoré que l'on retrouve sur la plante et puis une sorte de violacé superbe qui est sur la gorge de l'oiseau et ça. Et donc là, on a la sensation que c'est à la fois scientifique et à la fois poétique. Qu'est-ce que veut dire ce tableau pour vous ?
Alors, pour moi, dire que ce serait, une alliance entre science et art, ce ne serait pas faire justice, à mon sens, aux formes spécifiques de savoir du peintre. C'est-à-dire que le peintre a un savoir propre, qui est un savoir né en grande partie de cette relation si particulière entre œil et main, qui fait qu'il sait des choses que, on va dire, son savoir cérébral ou intellectuel ne sait pas forcément. Et c'est ça qui est aussi fascinant quand on regarde ces tableaux, c'est-à-dire que il arrive à représenter, donc ici on a une orchidée et un colibri, il arrive à représenter non pas des spécimens comme le représenterait, une planche d'histoire naturelle, mais à représenter, grâce à son savoir propre de peintre, les relations invisibles qui tissent l'orchidée et le colibri, qui sont des relations multiples, très complexes, qui se tissent à la fois dans l'instant, et ce qui est donc, parce que la scène de l'instant, si vous voulez, dans ce tableau, c'est une scène de tension amoureuse, c'est une scène de séduction, c'est comme ça qu'il représente l'orchidée et le colibri, par toute une série, voilà, de caractéristiques de composition qu'il est un peu dur de développer ici à l'oral, mais que vous retrouverez bien sûr dans le livre. Il représente une première scène de l'instant qui est cette scène de séduction, de tension entre le colibri et l'orchidée, qui met en scène, si vous voulez, la relation de pollinisation, puisque le colibri est celui qui peut, polliniser l'orchidée. Il va, le colibri se nourrit de nectar. Et en allant se rapprocher de la corolle de la fleur, il va être, son corps va être recouvert du pollen de l'orchidée. Mais ce qu'il représente aussi, C'est à la fois une scène de séduction, une scène galante, hein, comme on peut voir dans la peinture du XVIIIe, mais c'est aussi, ce tableau de Martin Johnson Head, c'est aussi une peinture d'histoire, puisque ce qui nous représente, c'est la relation invisible, extrêmement longue, immémorielle, entre l'orchidée et le colibri, qui a tissé ces corps ensemble. Et c'est pour ça que vous avez repéré tout de suite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette union des corps, le fait qu'il y a des couleurs similaires entre le colibri et l'orchidée, qu'il y a même une correspondance entre ce long bec du colibri et cette corolle très profonde de l'orchidée. Et il arrive à nous faire sentir tout cela, non pas en faisant une démonstration scientifique, mais par un travail de composition, de choix de forme, qui permet de voir cette orchidée et ce colibri comme on ne les verrait jamais spontanément en vrai. C'est-à-dire en faisant advenir à la surface du tableau l'invisible des relations sur le temps court et le temps long que sont à la fois ce moment d'avant la pollinisation et cette longue coévolution entre les corps.
Cette coévolution dont vous parlez, ce que vous voulez dire, c'est que depuis des milliers d'années, les deux protagonistes de cette vie amoureuse ont évolué ensemble, se sont fabriqués l'un l'autre en quelque sorte. Est-ce que c'est l'influence de Darwin qui permettrait à l'artiste d'aller dans cette direction?
Alors, c'est certain, étant donné que, c'est une hypothèse en tout cas très probable, étant donné que le tableau date de la fin du 19e et que il faut savoir que Darwin a complètement c'est un sujet énorme, mais a complètement bouleversé les artistes du temps, parce que tout d'un coup, avec la théorie darwinienne de l'évolution, les formes du vivant, les corps des vivants, deviennent signifiants, parce que leur corps raconte l'histoire longue de sélection et de variation, et de coévolution ici. Et donc pour un peintre, c'est une sorte de terrain formidable, comment dirais-je, la théorie de l'évolution, parce que en tout cas le monde couvre la découverte de Darwin, parce que tout d'un coup les formes ne sont plus des formes arbitraires, certes esthétiques mais arbitraires, mais tout d'un coup les formes peuvent être interprétées en termes de signification et sont même le signe de relations cachées, c'est-à-dire qu'un corps en cache un autre. Et c'est pour ça, il y a cette anecdote que Darwin découvre une orchidée à Madagascar, qu'il étudie son corps et qu'il dit « Je suis persuadé qu'il y a quelque part sur cette île un papillon qui a une trompe de 20 cm de long, parce que pour que cette orchidée ait cette forme-là, c'est qu'elle a dû coévoluer avec un animal, un pollinisateur. Et on a découvert il y a, je crois, 10 ans à peine, l'existence de cette fameuse espèce qui a été, de papillon, qui a été en fait vue par Darwin dans la forme de corps de l'orchidée.
Prévu, ça, en fait, oui, deviné.
Exactement. Corps en cache un autre, voilà.
Et donc, vous m'avez convaincu, donc je vois bien cette relation, comment cette coévolution est représentée par l'artiste avec un talent fou, parce que ce petit colibri, je suppose qu'un colibri ça pèse 3-4 grammes, enfin c'est extrêmement petit, c'est presque, c'est ce qu'on appelle un oiseau-mouche, non? C'est la même chose?
Oui.
Hein? Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi le rendu des matières, le lissé des bourgeons, le pulvérulent des étamines, enfin, etc. Il y a quelque chose de très extraordinaire. Alors, je suis content parce qu'il y a un très très grand tableau dans votre livre, donc d'Albert Bierstadt, qui s'appelle Storm in the Rocky Mountains, et ça, c'est un tableau extrêmement célèbre qui se trouve au Brooklyn Museum, donc près de New York, et qui est un tableau de 2 mètres. Il fait 2,50 m, c'est, on est au cinéma véritablement. Et là, je pense, je me réjouis parce que je sais que vous allez avoir du mal à nous dire qu'il y a vraiment une influence du savoir sur la constitution de ce tableau, sinon le savoir peindre. On est devant une scène extraordinaire, une vision de la nature. Nous sommes au milieu des montagnes. Il y a un lac que l'on voit très bien reprendre la lumière au fond, un ciel tourmenté avec des cumulonimbus qui sont autour et qui plaisent plane au-dessus, autour des grandes montagnes, un coup de soleil en plein milieu du tableau qui amène notre regard vers le fond. On devine des éboulements, un petit peu dans l'esprit du sublime. À droite et à gauche, on aperçoit des toutes petites figures, des cavaliers, peut-être probablement des Amérindiens, des Native Americans qui sont en train de poursuivre un cheval au bord d'un précipice, un petit camp ici, et probablement un grand oiseau, un grand rapace qui flotte là, qui plane. Je suppose que c'est un aigle. Mais qu'est-ce que ça vient faire, cette grande vue cinématographique, dans votre livre?
Je suis rentrée dans cette grande vue cinématographique par un tout petit élément, par le plus petit élément probablement de ce tableau, qui est ce fameux rapace qui plane.
C'est très américain, hein, sincèrement. Il y en a dans tous les tableaux américains, des aigles qui planent dans les nuages.
Voilà. Et je regarde ce tableau et je vois l'interprétation de ce tableau. Et effectivement, c'est ce que vous dites. La plupart des historiens d'art l'identifient au Bald Eagle, le pigargue à tête blanche américain, donc symbole des États-Unis. Et donc, il voit dans ce rapace l'ascension du pays, la destinée manifeste. Et ce qui moi m'a beaucoup intriguée, c'est pourquoi je passe de longs moments à étudier ce tableau en long, en large et en travers, c'est que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui dérange. Ce rapace, si on le regarde bien, si on regarde sa silhouette, ça ne peut pas être la silhouette d'un aigle américain.
Là, vous êtes forte, hein, parce que...
Alors, il faut certes avoir quelques connaissances ornithologiques, mais c'est des connaissances qu'avait Albert Bierstadt, parce que c'était un peintre qui passait énormément de temps à marcher, à observer dehors, à croquer, et qui avait des connaissances naturalistes. Et donc, on se dit, mais s'il avait voulu absolument que ce soit les États-Unis qui volent dans le ciel, il y aurait eu des moyens très simples de faire en sorte de nous signifier sans aucune équivoque que c'était bien l'aigle américain. Or là, d'une part,
c'est l'aigle à tête blanche qu'on voit sur toutes les représentations d'Amérique.
Au présidentiel, exactement. Ouais. Surtout, voilà. Et là, il n'y a pas du tout de contraste entre le corps et la tête blanche, etc. La forme des ailes ne correspond pas. Je vais vous épargner les détails. Croyez-moi sur parole, les détails sont dans le livre. Mais surtout, ce qui est l'autre chose, parce que voilà, si c'est un détail de silhouette, vous pourriez dire, bon, elle va vraiment, comment dirais-je, chercher la petite bête. L'endroit où il représente ce rapace dans le tableau, là où il l'a positionné, et la manière dont il le représente fait que, on peut dire sans aucune ambiguïté, que peut-être que c'est un symbole, mais que c'est aussi autre chose, qu'il y a aussi autre chose qui a intéressé Bierstadt dans ce rapace, qui est plutôt un vautour ouroubou d'ailleurs. Et que c'est ça aussi qu'il voulait nous montrer. Et ce qu'il voulait nous montrer, là encore une fois, je vais devoir aller, faire court. Mais voilà, il l'a représenté dans un endroit très précis du tableau qui est à l'aplomb de ces falaises mordorées que vous décriviez tout à l'heure, et en contraste avec ce ciel d'orage qui se fait très menaçant. Il l'a représenté selon un principe de perspective atmosphérique qui est utilisé ici de manière verticale, c'est-à-dire que au lieu de faire un dégradé de couleur pour signifier la profondeur, la perspective dans un tableau, là il a utilisé cette technique picturale pour représenter de la hauteur dans le ciel. Et donc ce qu'il nous montre là, c'est la manière très singulière d'habiter les vents d'un rapace planeur comme un vautour qui vole essentiellement grâce aux ascendances thermiques.
C'est-à-dire qu'il nous a poupe, comme on dit, hein, avec quand on fait poupe. Du deltaplane.
Exactement. Voilà. Je pense que tous les deltaplaneurs et les parapentistes, en regardant ce tableau, seront parfaitement convaincus de ma démonstration. Parce que voilà, il l'a représenté dans ce milieu partagé par les parapentistes et les vautours, qui est, voilà, ce moment où le vautour peut pleinement voler, parce qu'il faut savoir qu'un vautour, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment, la forme de ce rapace tel que peint par Bierstadt sur cette toile nous renseigne sur la singularité de la forme d'existence de ce vautour, qui est que un vautour, c'est un rapace planeur qui n'a pas de vol battu comme les pigeons ou les corbeaux, donc du coup a un bréchet beaucoup moins musclé et qui a dont toute son existence dépend de vents favorables pour pouvoir planer au long cours, puisque quand on est un vautour, le grand problème, c'est que notre source de vie ne dépend pas de nous, puisqu'un vautour, c'est un charognard. Et donc, il doit parcourir des kilomètres et des kilomètres dans l'espoir de trouver la mort de quelqu'un et de pouvoir s'en nourrir. Et donc, l'évolution a construit ces corps magnifiques, qui sont ces corps tissés de ciel et de vent, qui peuvent se laisser porter par ces ascendances et qui voilà nous disent un peu quelle est la forme de vie distincte de ce vautour parmi d'autres. Et Bierstadt ici nous a laissé des indices pour permettre à notre œil de voir ça, de voir ce dialogue immémoriel que constitue un rapace entre ses ailes et le vent.
Je n'en reviens pas parce que je m'étonne que tout ce tableau de 2,50 m ait été fait pour exprimer le. Je suppose que en réalité, ça doit faire une vingtaine de centimètres sur le tableau originel. Oui. Et cela, mais il se passe en même temps beaucoup d'autres choses dans le tableau. Est-ce que ça a de l'importance aussi, ces effondrements d'arbres qui sont basculés par l'érosion peut-être? Est-ce que c'est de la géologie, de la météorologie? Qu'est-ce qui se passe d'autre dans ce tableau?
Alors, c'est un tableau très intéressant parce que il dialogue avec la tradition marquée dans la peinture romantique des paysages catastrophes. C'est-à-dire les orages, les tempêtes, les éruptions volcaniques, qui sont un thème de prédilection de ces artistes-là, en tant qu'ils provoquent en nous un sentiment de sublime, c'est-à-dire à la fois de fascination et de terreur mêlées. Et encore une fois, ce sont des tableaux qui nous ramènent à notre condition humaine, etc. Ici, on pourrait penser qu'on est face à ce même type de paysage catastrophe, puisque sur toute la partie droite du tableau, comme vous le décrivez très bien, il y a un éboulis, un dévalement. On voit des arbres brisés, un chaos rocheux, des écoulements d'eau sur des pentes où on voit que les forêts ont du mal à s'installer, etc. Et donc cet orage très menaçant, bien sûr, qui est le sujet principal du tableau. Et donc là, ce qui est très intriguant, c'est que quand on regarde ce tableau, pourtant, il n'y a pas du tout ce sentiment de terreur, de danger qu'on peut ressentir face à des tableaux, je ne sais pas, de Vernet, de Voller, etc., ou même de Turner. Ici, à la fois, l'orage arrive, mais il y a quelque chose de très calme. La manière, moi, dont je lis ce tableau, c'est que Bierstadt nous donne à voir l'orage non pas comme destructeur, qui est une perspective très humaine, mais comme créateur de ce paysage qu'on voit là. Puisque, en fait, toute la particularité géologique et de milieu qu'on voit sur la partie droite du tableau a été créée, et c'est ça qu'il nous donne à voir, a été créée par cet orage qui arrive et qui reviendra et qui est revenu 1000 fois. Et donc, c'est l'orage comme sculpteur du paysage. Comme force de création un peu, en quelque sorte, parallèle à celle du peintre qui, s'allie avec cette force de création naturelle que Bierstadt nous donne à voir. Et donc, d'une certaine façon, c'est une peinture de paysage qui est une peinture d'histoire de ce paysage. Et c'est très important parce que dans la tradition de la peinture de paysage, il y a eu toute cette difficile émancipation de la peinture d'histoire. On pensait que la peinture de paysage ne racontait rien si elle ne racontait pas des épisodes historiques humains. Et là, ce que nous montre Bierstadt, c'est qu'un paysage peut bien avoir une histoire, mais une histoire autochtone, une histoire qui n'est pas seulement humaine, et qui est l'histoire de cette formation sur un temps extrêmement long du paysage qu'on a sous les yeux, qui n'est pas un paysage figé, mais qui est toujours en train de se faire par des micro-événements qu'on vit, nous, comme des cataclysmes, mais qui sont en fait, le cours parfaitement naturel de cette montagne. Et donc, c'est pour ça que j'en arrive à dire que cet orage est peint par Bierstadt du point de vue de la montagne. C'est-à-dire comme quelque chose qui n'est pas menaçant, qui n'est pas un point d'arrêt, mais qui est au contraire une force de création et dans une parfaite continuité.
Et donc on a le effectivement ces temps et dans lequel le passage de l'homme est bien peu de choses. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez beau d'avoir ces hommes minuscules dans ce paysage immense, avec une temporalité qui est celui d'une vie, avec des montagnes qui ont des millions d'années, probablement des événements de masse d'air froid et chaud qui s'entrechoquent, et tout ça se passe avec une sorte d'étrange sérénité. D'ailleurs, il y a un personnage dont vous parlez à un moment donné dans le livre qui est lié, je crois, à cette conception du temps. C'est Charles Lyell. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine, l'actualisme.
Alors Charles Lyell, si vous voulez, c'est un peu comme Darwin. C'est une figure qui mériterait d'être très importante en histoire de l'art, parce qu'il renouvelle aussi complètement ce qu'un artiste peut dire d'un paysage, peut montrer, peut donner à voir d'un paysage. Donc Charles Lyell, c'est un géologue du 19e siècle. Qui a été extrêmement lu par Darwin, et vous verrez ensuite pourquoi je dis ça. Si vous voulez, avant Lyell, on pensait que la formation de la Terre remontait à 6000 ans. Et donc, quand on pense que la formation de la Terre remonte à 6000 ans, forcément, pour expliquer les montagnes, les canyons, les vallées...
Jusqu'en 1820, à peu près, jusqu'au milieu du 19e
jusqu'en
siècle.
Jusqu'en 1830, exactement. Le livre de Charles Lyell, Principe de géologie, qui propose une nouvelle interprétation, est publié en 1830. Donc, si on pense que la Terre a 6000 ans, forcément... tous les paysages autour de nous n'ont pu être créés que par une catastrophe. C'est-à-dire, voilà, tout d'un coup, il y a eu un changement rare, massif, qui a produit ces effets de transformation. Et ce que propose Lyell, c'est exactement l'opposé. Ce qu'il nous dit, c'est que les formations géologiques qu'on voit tout autour de nous, sont le résultat de processus qui sont continus, qui sont toujours présents, qui produisent des effets, en fait, microscopiques, mais sur de très, très longues échelles de temps. Et Lyell dit, en fait, la Terre aurait plusieurs centaines de millions d'années, et c'est en allongeant de ces millions d'années, la vie de la Terre, que, bien sûr, il peut expliquer ces formations géologiques autrement. Et alors là, si vous voulez, ça devient quelque chose, de très puissant pour les artistes, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit un paysage, est en train de se produire des événements, des micro-événements, comme cet orage, qui ont construit ce paysage. C'est-à-dire que, à la fois, on voit le paysage toujours en train de se faire, suivant la théorie de Lyell. Donc, voilà, le paysage n'est plus cet endroit figé. Et on a une sorte de collusion de temporalité extraordinaire pour un peintre, c'est-à-dire que on voit en même temps à la surface du paysage et donc à la surface potentiellement de la toile ce qui s'est passé il y a des millions d'années, ce qui s'est passé il y a des centaines d'années et ce qu'il se passe aujourd'hui. Et ça permet de restituer au paysage une densité historique, un drame propre, qui fait que finalement est-ce qu'on a tant besoin que ça pour arriver à avoir de la signification? À ajouter des épisodes humains pour qu'il se passe quelque chose dans un paysage. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que Lyell est si important, à mon sens, dans l'histoire de la peinture de paysage, parce que comme Darwin, il ouvre le fait que les formes du monde vivant ont une histoire, des significations qui peuvent être observées et traduites par les peintres.
Alors, on vient de voir ce tableau qui, sous votre commentaire, devient véritablement extraordinaire, qui est peint du point de vue de la montagne. Et on comprend comment, fasciné par ses recherches, Darwin, Lyell, et ses promenades où son corps a été engagé dans le paysage, Bierstadt a inventé cela. Mais il aurait pu demander l'aide de d'autres acteurs qui interviennent dans votre livre et qui sont très étonnants. Et je ne m'attendais pas du tout à les rencontrer dans un livre sur l'histoire du paysage. Ce sont, Estelle Zong, les elfes, les fées, les pixies, les gnomes, les puck, les lutins, les sylphides, les farfadets et autres. Qu'est-ce que viennent faire ces farfadets dans le monde mystérieux de la nature tel que vous l'envisagez?
Alors, c'est au 19e siècle que tout ce monde donc, qu'on appelle dans le monde anglo-saxon des fairies, qui comprend tous ces voilà toutes ces formes de que vous avez évoquées, qui fait son apparition à la fois dans la peinture qu'on retrouve notamment chez Millet, mais aussi chez Turner en partie, et qu'on retrouve aussi dans ces ouvrages naturalistes que j'étudie de ces femmes. Et il y a une première interprétation de ce phénomène où on peut se dire mais en fait pourquoi parler de ces êtres surnaturels quand on parle de la nature? Est-ce que ce n'est pas une manière de le réenchanter à peu de frais, alors même que le monde vivant n'est pas très enchanté en lui-même? Est-ce que ce n'est pas voilà une sorte de ruse? Ou est-ce que ce n'est pas simplement, ça s'explique pas voilà par voilà une sorte de goût du temps? Et est-ce que voilà ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que il y a que les féeries sont un outil pour nos naturalistes, pour essayer de nous faire comprendre la singularité des formes de vie des vivants, à savoir que il y a beaucoup de points communs si on essaie d'être un petit peu descriptif entre les féries et le vivant du point de vue des puissances partagées, des puissances hors normes. Le vol, par exemple, bien sûr, mais la résurrection aussi, des pouvoirs qui ne sont pas partagés par les humains. Quand je parle de la résurrection, je pense par exemple aux mousses qui peuvent suspendre leur vie pendant 40 ans si elles n'ont pas l'eau qui leur est nécessaire et ensuite revenir à la vie et reprendre leur cours. Donc, cette fascination partagée pour les féries et le vivant à l'égard de puissances que n'ont pas les humains, le fait que le vivant et partout, comme les féries invisibles, tout contre nous, mais toujours un peu, dans l'angle mort de notre regard. Et si vous voulez, j'ai essayé de montrer comment c'était une figure sérieuse, comment les féries étaient une figure sérieuse pour essayer de faire justice au monde vivant.
En fait, il se trouve aussi que toutes ces fées, ces farfadets vivent sous une corolle de champignons, sont à l'échelle d'un trèfle. Ils ont une intimité, effectivement, avec la nature qui est, peut-être, c'est cela que vous suggérez, le point de vue où il faut se mettre nous-mêmes.
Oui, c'est-à-dire que, en tout cas, pour pouvoir saisir le vivant, il faut, déjà postuler que ce ne sont pas des êtres inanimés, dépourvus d'intériorité, qui sont un simple décor. Et donc, en tant que tel, l'opposé d'être un décor, c'est peut-être être un point de vue, au sens large. Parce qu'une plante, je dis qu'une plante a un point de vue, même si elle n'a pas le sens de la vue. Mais c'est-à-dire que l'opposé d'être un décor, c'est être une perspective sur le monde. C'est être autre chose que notre environnement ou que l'environnement des autres. Et une fois que on accepte ce postulat-là, que chaque forme de vie se caractérise par une perspective particulière sur le monde, avec sa manière de pondérer le monde autour, de lui accorder la valeur à certaines choses, d'aimer certaines choses et de vouloir repousser d'autres. Du coup, c'est plutôt moins que le fait de se mettre dans les parages spatiaux ou physiques du vivant, c'est plutôt essayer de se mettre dans les parages de leur perspective, c'est-à-dire essayer de traduire la manière propre que chacun a de configurer son monde.
Mais quand vous dites c'est pas se mettre vraiment dans la sur la piste au fond du vivant à sa hauteur, pourtant quand le loup, la fougère vous fait une invite à aller observer. Je sais qu'il y a eu une période en Angleterre où on parlait de la passion des fougères. Il fallait observer auprès des cascades, dans les endroits les plus sombres de la forêt, où se mettaient les fougères, comment elles envoyaient leur spores se promener. Il y a une sorte de... Pour être connaisseur de la nature, il faut être un peu chasseur d'images, en tout cas, non?
Oui, alors, c'est juste. C'est vrai que l'intérêt pour le vivant ouvre, comment dirais-je, le monde au sens où il l'élargit. On se met à aller dans des endroits où on n'allait jamais. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée quand je travaillais sur les femmes naturalistes. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressée, c'est comment cette pratique-là, leur intérêt pour le monde vivant, faisait qu'elles étaient mises dans une trajectoire d'émancipation de leur propre corps, en tentant d'aller voir et chercher les corps des êtres vivants qui peuvent être dans des endroits parfaitement inappropriés pour une femme du 19e siècle, parfaitement reculés, inaccessibles, connotés comme redoutables ou menaçants, mais que justement cet intérêt naturaliste qu'elles avaient, cet intérêt pour les autres formes de vie, les invitait à elles-mêmes déployer un autre corps. Dans le monde, un corps plus émancipé, moins atrophié en termes de ce qu'elles s'imaginaient que leur corps pouvait faire. Et c'est quelque chose dont ces femmes naturalistes parlent beaucoup dans leurs livres.
Mais parce qu'elles étaient encombrées de jupons, de robes qui descendaient jusqu'en bas, d'escarpins trop
Exactement.
fragiles. Enfin, je pense que c'est assez intéressant, d'ailleurs, quand vous le racontez dans le livre, la transformation profonde, la métamorphose qu'il faut qu'elles infligent à toutes les conventions sociales de leur temps pour parvenir à faire ce métier qui était considéré auparavant comme un métier d'explorateur dans lequel comme dirait une certaine femme politique, la bravitude était nécessaire.
C'est vrai. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'était en tant que justement on pensait qu'il fallait avoir une certaine parvitude, comme vous dites, on pensait que que la pratique naturaliste était quand même réservée préférentiellement aux hommes. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est de voir comment ces femmes se réappropriaient et réclamaient cette revendiquaient cette pratique pour elles-mêmes, suivant des affects et des dispositions différentes que celles des hommes à leur époque, et que effectivement ça exigeait à la fois une métamorphose de leur corps-vêtements, mais aussi une métamorphose de leur corps vécu, c'est-à-dire que il fallait qu'elles s'imaginent être capables voilà, de grimper, de ramper. Et il y a une image que j'adore dans ce livre, une aquarelle d'un, comment dirais-je, d'un ouvrage naturaliste écrit par deux femmes, Alice Rowan et Alice Lounsbury, ou Alice Lounsbury et Alice Rowan, j'ai confondu, qui m'a beaucoup frappée quand j'ai vu cette aquarelle, parce que on voit deux femmes qui sont à genoux en train de ramper sur une sorte de promontoire rocheux. Elles sont pourtant en robe, et je crois même qu'il y en a une qui a un chapeau. Mais c'était quand j'ai vu cette aquarelle-là, donc elles sont sur ce promontoire pour aller observer des fougères. Et quand j'ai vu cette aquarelle-là, je me suis dit, c'est incroyable à quel point je n'avais pas dans ma galerie mentale de représentation de corps féminin qui soit voilà, de la sorte, c'est-à-dire
À l'aventure, en fait.
à l'aventure et à l'aventure vers d'autres formes de vie, c'est-à-dire pas à l'aventure performance pour se dépasser soi-même, où finalement on emmène encore une fois que soi dans la nature, mais à l'aventure parce qu'on est profondément invité, animé, habité par d'autres formes de vie et que c'est ça qui nous fait avoir d'autres corps.
Estelle Zong-Mingual, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons le corps qu'il faut, l'attention qu'il faut? Est-ce que notre relation à la nature est en train de se transformer? Est-ce que votre livre, finalement, est une morale pour aujourd'hui?
Alors, morale, non, je détesterais que ce soit ça.
Des
Mais en tout cas,
recommandations?
voilà. En tout cas, j'ai pensé ce livre comme une tentative à la fois de nous faire prendre conscience de l'œil dont on hérite. C'est-à-dire qu'à mon avis, pour s'ouvrir à une autre sensibilité au vivant, il faut déjà avoir conscience de nos habitudes de voir, qui ont été construites en partie par les œuvres, mais aussi en partie par d'autres pratiques, et par la philosophie, et par l'histoire, et plein d'autres choses. Mais donc il faut déjà avoir ce premier temps-là de réflexivité sur comment nous voyons. Et ensuite, je crois profondément que l'art, et donc l'art contemporain aussi, bien sûr, l'art ancien et contemporain sont des ressources incroyables aujourd'hui pour arriver à réenrichir notre sensibilité au monde vivant, parce que justement c'est un domaine privilégié pour parvenir à nous faire saisir l'invisible, voilà, qui est un leitmotiv bien sûr des artistes, mais aussi des naturalistes d'ailleurs, et que nous faire sentir l'invisible, c'est tout ce par quoi le vivant déborde du décor. C'est tout d'un coup, si on arrive à nous faire sentir l'invisible, comme le font si bien les artistes, le vivant, ce sont des relations insoupçonnées, des histoires immémorielles, des comportements extrêmement riches, des significations à découvrir. Et à mon avis, les artistes sont extrêmement bien placés pour réaliser cette tâche.
Et alors, il y a un artiste contemporain dont vous parlez d'ailleurs à la fin du livre. Vous pourriez décrire en quelques mots son travail, Marcus Coates, et qui montre comment cette préoccupation d'être attentif dans les mouvements des corps, les nôtres comme ceux du reste du monde, serait important.
Alors, l'œuvre de Marcus Coates, qui est un artiste incroyable que je recommande fortement, dont je parle, c'est quelque chose. C'est un panneau dans une gare. Donc ce sont des lettres oranges sur fond noir, hein, les panneaux où normalement on vous indique un retard de train. Et là, en fait, c'est un panneau qui annonce les événements du jour dans le monde vivant. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, 12 décembre, les saumons commencent à remonter les rivières pour frayer. Ou un autre jour, vous pouvez avoir une autre annonce. Aujourd'hui, les rosiers sauvages commencent à fleurir.
J'adore ça. Et je rêve que gare de Lyon ou gare du Nord, on ait des signaux comme cela. Ça serait absolument formidable. Écoutez, Estelle Zongmagual, je vous remercie mille fois parce que ce livre est passionnant. Il ouvre une perspective nouvelle. Il y a des clés pour notre bien-être, notre bonheur à partager et avoir d'autres relations avec le vivant. Je vous remercie de tout cœur pour tous ces commentaires et j'invite nos lecteurs à lire ce livre « Apprendre à voir le point de vue du vivant » chez Actes Sud.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches. Quand elles passent, ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Estelle Zongmagual pour parler de son livre sur Apprendre à voir le point de vue du vivant. La semaine prochaine, toujours sur ces questions de nature, nous parlerons de quelque chose qui nous paraît plus inerte, quoique, de la beauté des pierres, de leur histoire, du savoir et du pouvoir de séduction qu'elles ont, de la fascination qu'elles exercèrent sur les humains et l'inspiration qu'elles fournirent à de grands écrivains, je pense à Roger Caillois par exemple, et ceci à l'occasion de l'exposition Pierres précieuses au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission conçue en collaboration avec Sam Boutata, recherche Maureen Roy, prise de son Anthony Thomasson et réalisation évidemment Thomas Joss, merci Thomas. Mais dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.